Et maintenant sur Radio People,
c'est le coup de fil.
C'est le coup de fil.
Des personnalités qui vivent leur passion et qui nous en parlent sur Radio People. Au micro de fil, elles te disent tout. Écoute, tu vas tout savoir.
Il aime la night, il aime la bonne musique. Ça tombe bien, il est DJ. Bonjour Ian Anderson.
Salut Phil.
Quand on est né à Bienne et qu'on s'appelle Anderson, à mon avis, il y a quelque chose qui se passe. D'où ça vient ce nom? Est-ce que ça a à voir avec la série MacGyver et son acteur fétiche Richard Dean Anderson?
Oui, tout à fait. Oui, voilà, c'est pas mon vrai nom, c'est un nom d'emprunt. Et puis, c'est effectivement lié à MacGyver. Cette série qu'il y avait dans les années 90, j'aimais beaucoup le personnage, en fait, qui était quelqu'un qui arrivait toujours à se sortir de situations périlleuses sans utiliser la violence ou les armes. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît bien. Et puis d'un autre côté, on a Matrix, film que je pense la plupart des gens ont pu voir, hein, qui avait fait vraiment un gros tabac. Et dans Matrix, eh bien, l'acteur principal, en fait, joué par Keanu Reeves, dans le film, s'appelle donc Tom Anderson, qui est aussi un petit peu un acharné du travail, un informaticien qui dort 2 heures par nuit. Et puis c'est vrai que voilà, je bosse pas mal aussi pour la musique, tout. Et enfin bref, le film m'a beaucoup plu. Et c'est donc naturellement que j'ai choisi ce pseudonyme.
La musique, comment ça arrive dans ta vie? Est-ce que tu as fait du piano? Est-ce que tu as fait de la guitare, du chant? Raconte-moi un petit peu.
Ben, la musique, je pense, c'est pas vraiment quelque chose qu'on décide. Tu vois, on se lève pas un jour en se disant, tiens, je fais de la musique. Là, c'est vraiment quelque chose qui m'a suivi depuis tout petit, en fait. Vraiment depuis que je suis gamin, c'est quelque chose qui m'a vraiment toujours passionné. J'ai toujours eu des émotions, en fait, en écoutant de la musique. Et par la suite, oui, alors j'ai fait quelques... pendant 4 ou 5 ans, j'ai fait des cours de synthé. C'est vrai que ça me plaisait bien, donc pour avoir aussi une base un petit peu de solfège, hein, si on veut bien savoir ce que c'est, quand même plus de mesure que de 4 temps, et puis voilà, faire des accords, tout. Et là, j'ai vraiment compris que c'était une passion qui allait jamais me quitter. Puis voilà, dès que j'entendais un titre qui passe en radio, en télé, dès que j'entendais quelque chose qui me plaisait, la première chose que je faisais, je courais sur le synthé, et puis j'essayais de reproduire la mélodie. Bah voilà, à 16 ans, les premières sorties avec les copains, donc discothèque, club. Rapidement, j'avais en fait des amis dans le canton du Jura, puisque c'est de là que je suis originaire, en fait. J'avais des amis qui avaient une disco mobile, et voilà, vu que j'étais ami avec eux, j'avais la chance de retrouver un petit peu sur la régie, en fait, avec eux, et voir un petit peu de plus près qu'est-ce que c'est que ce DJ, et en quoi consiste le mix, comment ça marche. Et puis là, ça a vraiment été le coup de foudre, vraiment instantané, quoi. C'était, dès le moment où j'ai vu ça, 2-3 mois après, le temps de mettre un petit peu d'argent de côté, je me suis fait des platines, et depuis là, c'est vrai que c'est une passion qui m'a jamais quitté. Je dirais que j'ai pas l'intention d'arrêter, tu vois.
C'était quoi le nom de la disco mobile?
Alors, ça s'appelait Star Mix. C'est donc une disco mobile dans le canton du Jura. Puis voilà, à force de sortir là, et puis de fréquenter un petit peu ces gens qui travaillaient donc dans cet univers, ça m'a permis d'avoir aussi de voir de plus près finalement en quoi ça consiste. Et puis là, vraiment, je suis tout de suite tombé dans le truc, quoi.
C'est plutôt un style old style quand on fait de la disco mobile, donc on passe des années 80, 90, 2000, des nouveautés, du reggae, des choses comme ça. C'est une bonne école finalement pour débuter?
Alors oui, c'est une école comme une autre. Finalement, il n'y a pas vraiment, tu vois, il n'y a pas d'apprentissage pour devenir disc-jockey, hein. Il n'y a pas non plus de règles précises et tout établi. Mais disons que ça permet de voir déjà un petit peu, de voir les réactions avec le public, hein, et puis comment on fait finalement pour construire une soirée, hein, qui commence à 11h le soir et qui se finit tard dans la nuit. Peu de temps après, finalement, j'ai quitté le canton du Jura, je suis venu donc en région lausannoise. Et là, bien sûr, à Lausanne, qui est quand même la capitale en Suisse romande pour le clubbing, là, alors, c'était vraiment le coup de foudre, hein, première sortie au BAD ou dans d'autres clubs, et puis là, avec des grands DJ, voilà, il y avait Will Jimin à l'époque, et enfin, qui sont toujours là, bien sûr, mais je veux dire, voilà, j'allais tout le temps les voir, et c'était vraiment quelque chose de sensationnel, voir tous ces gens, les éléments en l'air, c'était vraiment une bonne école. Au départ, voilà, j'allais vers eux, je me mettais à côté des platines, les bras croisés pratiquement, et je les regardais toute la soirée, et puis ça permet de voir un petit peu quand on quand on peut voir des DJ qui ont déjà de l'expérience, ça permet de voir un petit peu les différentes techniques, les techniques pour mixer, en fait.
Donc, on parle de cette période où il y avait encore des vinyles sur les Technics 1200 MK2 et non pas sur le fameux système Traktor qui synchronise automatiquement les choses. Donc, tu as appris vraiment à l'ancienne, on pourrait dire.
Oui, à l'ancienne. Et puis ça, j'en suis alors vraiment très heureux d'avoir la chance de connaître cette époque-là. C'est vrai qu'il n'y avait pas, évidemment, toute la technologie actuelle. Donc là, c'était beaucoup plus basique, hein. Donc oui, des platines vinyle et rien d'autre en fait, une table de mixage, et puis il n'y avait pas tous ces effets, ces choses. Aujourd'hui, les tables de mix ressemblent plus à des mini ordinateurs. Bon, on peut vivre avec son temps, hein. Je veux dire, c'est très bien comme ça aussi aujourd'hui. Ben voilà, on travaille avec des CD ou avec des logiciels. Tu l'as très bien dit, comme Traktor ou Serator. Donc après, voilà, qu'on soit au vinyle, qu'on soit avec du logiciel ou au CD, finalement, c'est pas ça le plus important. Le plus important, bah voilà, pour un DJ, c'est vraiment d'arriver à faire danser les gens et de créer une bonne ambiance dans la soirée.
Tu penses que c'est un plus d'avoir eu une expérience disco mobile, de connaître le old style, d'avoir mixé sur vinyle, puis d'arriver d'être aujourd'hui un DJ actuel par rapport aux jeunes qui en fait n'ont connu que les logiciels et que la musique sous format électronique, par exemple?
Toutes les expériences sont toujours bonnes à prendre, hein. De toute façon, ça ne peut être que des clics. Après, c'est vrai que je vois qu'il y a quand même le monde du clubbing actuel a vraiment beaucoup changé, que ce soit au niveau des clubbeurs ou des DJ. Il y a quand même beaucoup d'évolutions, c'est plus les mêmes mentalités, c'est ni mieux ni bien, mais c'est vrai que c'est différent. Et en tout cas, je pense qu'à l'époque, c'était peut-être un petit peu plus difficile d'arriver à faire des mix vraiment propres et puis à arriver à construire une soirée, parce qu'aujourd'hui, justement, on a cette technologie qui a tendance parfois à tricher un petit peu, à aider les gens. Et finalement, aujourd'hui, quelqu'un qui serait pas vraiment forcément doué à la base pour être dit, ben, via la technologie, ça lui permet de faire des mix en rythme. Et ça, à la limite, je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que finalement, ça gâche un petit peu la créativité. Donc, mais voilà, comme je disais, les choses évoluent. Et puis, en tout cas, il y a beaucoup d'engouement pour ça. On voit aujourd'hui, chez les jeunes, il y en a vraiment énormément qui se lancent là-dedans, qui ont envie de devenir DJ. C'est vrai que c'est quelque chose qui est plaisant, hein, quand on fait de la musique, et puis surtout qu'on peut la partager avec des gens. De mixer, voilà, chez soi, dans sa chambre à coucher, c'est sûr que c'est vraiment agréable. Surtout de pouvoir jouer avec le public, tu vois, de mettre certains morceaux. Voilà, à travers ces mix, d'arriver à mettre de l'émotion et de l'énergie sur la piste de danse, ça c'est vraiment quelque chose de génial.
Pour les vieux comme moi, on a connu, il y a 20 ans, les DJ qui allaient aux États-Unis, par exemple, qui allaient dans des magasins de disques où il y avait des imports avec des fours toutes blanches, avec le centre du vinyle complètement blanc, on savait ni l'interprète ni le titre de la chanson, c'était du son énorme. Il ramenait ça ici, il jouait ça sur la Riviera, par exemple, t'as parlé de Jemmin et Duilo, et puis pendant 6 mois, pendant une année, on entendait ce fameux tube, mais que dans les soirées avec le DJ qui jouait cette fameuse plaque. Elle était introuvable nulle part, on avait évidemment pas d'iPhone, pas de Shazam, rien du tout. Cet esprit-là où le DJ en fait avait des nouveautés, on allait pour voir le show, on entendait de la musique qu'on entendait nulle part ailleurs, ça par rapport à aujourd'hui où tout est facile, où tout est accès, quand il y a une nouveauté qui sort, bah il suffit d'un Shazam et puis on la télécharge immédiatement, tout le monde l'a. Quel est ton avis là-dessus?
Pour être très franc avec toi, je trouve ça un petit peu dommage, justement, c'est pas pour critiquer comme ça les choses, mais c'est vrai que justement, il y a une certaine inversion qui s'est faite au niveau des mentalités, c'est-à-dire que il y a 15 ou 20 ans en arrière, quand les gens sortaient en club, ils n'avaient surtout pas envie d'entendre des choses qu'ils avaient déjà entendues à la télé ou à la radio. Ils avaient vraiment soif de connaissances, de découvertes. Ils voulaient vraiment entendre des nouvelles choses, des nouvelles sonorités. Et aujourd'hui, on est tombé dans une tendance un petit peu inverse. Ça devient de plus en plus difficile, quand on est dans un club, de jouer des choses que les gens n'ont jamais entendues, parce que c'est vrai qu'ils aiment bien, ils aiment bien écouter de la musique quand même un petit peu commerciale, qu'ils connaissent, sur laquelle ils peuvent danser, chanter dessus, pourquoi pas. Voilà, ça s'est un petit peu inversé. Maintenant, rien ne dit qu'on n'aura pas de nouveau une tendance inverse dans 3 ou 4 ans, si ça se trouve, peut-être que les gens voudront revenir à des sons un peu plus underground ou en tout cas moins commerciaux. Ça, on ne le sait pas, mais pour l'instant, les choses sont comme elles sont, et puis voilà. On voit bien que les gens sont quand même, ont encore très envie de clubbing, hein, ils ont envie de sortir. C'est vrai qu'on est dans une période aussi économique un peu difficile, donc on pourrait se dire, voilà, les gens ont moins d'argent, ils sortent moins. Oui, et d'un autre côté, ben, quand ils ont besoin de sortir un petit peu, changer les idées, tu vois, quitter le monde du travail, qu'ils vivent toute la semaine. Donc finalement, c'est pas si grave, parce qu'il y a toujours encore une énergie positive et puis vraiment une bonne ambiance dans les soirées. Et puis ça, je trouve que c'est une très bonne chose.
Tu parles de l'ambiance dans les soirées. Comment c'est une soirée avec DJ Ian Anderson qui mixe par exemple au platine du Mika Club à Lausanne, puisque tu es résident là, entre 11h et 5h du mat, il se passe quoi? Comment tu construis ta soirée, toi?
Il n'y a absolument aucune préparation. Si c'est dans un festival, les choses sont très différentes. Ça ne sera pas du tout la même approche, parce qu'un festival, tu as un certain temps donné pour faire ton set, peut-être une heure, donc tu vas vraiment faire ton set à ta façon. Par contre, quand tu es au Mika Club ou dans un club, c'est vrai que là, c'est vraiment très différent, parce que bon, le but, c'est de faire danser les gens, et c'est bien sûr de les garder jusqu'à 5h du matin. Tu vas devoir beaucoup plus varier les sonorités. C'est vrai que si tu joues vraiment tout le même style de 11h à 5h, les gens risquent de se fatiguer, de se lasser, et finalement à 12h, le club il est vide et la soirée elle est loupée. Donc je dirais que c'est surtout le public en fait qui donne un petit peu le style, tu vois. Il faut être très réceptif aux gens, et bon, ça c'est quelque chose bien sûr qu'on n'apprend pas en s'entraînant à mixer chez soi. Ça faut vraiment, après c'est quand on est sur le terrain, quand on joue en club, qu'on arrive à avoir un petit peu de l'expérience à ce niveau-là. C'est pas toujours évident, mais en même temps, voilà, c'est vraiment le but premier, c'est de voir comment réagissent les gens sur la soirée. Et puis après, comme tu le disais, une soirée, c'est de 11h à 5h, donc c'est une évolution. Donc tu vas commencer peut-être avec quand les gens arrivent à 11h, tu vas pas mettre la Swedish House Mafia à 11h05, tu vois. Tu commences avec des trucs un petit peu plus joyeux, plus festif, un peu plus calme. Et puis ensuite, au fur et à mesure que la soirée évolue, là, tu fais évoluer ton set, puis tu passes par différents courants musicaux.
Donc t'as l'œil pas seulement sur tes curseurs, mais aussi un peu sur la piste de danse pour voir s'il y a les gens qui arrivent, qui repartent, qui sont en train de bouger par rapport à vos évolutions. Et puis tu peux mélanger plusieurs styles aussi.
Alors bien sûr, ça c'est la priorité, hein. C'est vrai qu'il y a parfois certains DJ qui ne lèvent jamais la tête, qui sont vraiment, qui ont les yeux fixés sur leur platine, qui n'ont aucun échange avec le public. Et puis c'est vrai qu'ils sont pas attentifs, certains. Et puis ben voilà, le résultat, c'est qu'à 1h30, les gens, même si le DJ est très bon, qui fait des bons mix, qui a une musique, finalement, les gens, à minuit, à 1h du matin, ils repartent. Donc, voilà, il faut quand même varier, et puis être très... Finalement, il faut arriver à sentir les gens, tu vois, et puis arriver à mettre les bons sons au bon moment. Et c'est pas toujours facile, mais je veux dire, si c'était facile, ça serait peut-être pas intéressant non plus, en même temps, tu vois. Donc, non, c'est sûr que c'est de toute façon très différent de jouer en club, ou même dans un bar, hein, ça sera encore différent, ou dans un... Donc voilà, après le DJ, une des forces principales du DJ, ça doit être aussi de pouvoir s'adapter tout en gardant sa vision musicale, tu vois. Je pense que faire vivre aux gens, c'est vraiment essentiel. Mais après, dans mon cas, il y a quand même des morceaux que, je veux dire, si c'est en désaccord total avec mes goûts musicaux, je vais pas forcément les mettre, tu vois. C'est un petit peu compromis, en fait.
www.janandersson.com. Quand on arrive sur le site, ben déjà on peut choisir sa langue, on peut avoir le site en danois ou en polonais, comme vous voulez, toutes les langues du monde. Ça c'est formidable, ça prouve que t'es vraiment un DJ international. Et puis évidemment il y a tes fameux podcasts avec tes fameux sets de mix qui arrivent. T'en fais à peu près 2 par jour, tous les mois, ça fait à peu près 60 par mois, c'est ça?
Non, j'en fais un par mois, quoique là c'est vrai que j'ai pas mal développé aussi. J'essaie d'un petit peu d'exporter ma musique, enfin mes mix. Donc c'est vrai qu'avec certains outils tels que Twitter ou Facebook, ça me permet aussi, ben voilà, de présenter ma musique finalement à des gens qui sont sur ces réseaux sociaux. Et là effectivement, j'ai parfois des Russes, des Chinois ou des gens d'Amérique du Sud qui vont sur mon site. Ce qui à la fois fait vraiment plaisir, c'est aussi très encourageant, car je reçois des fois des messages vraiment très 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 sympas. Je vais essayer maintenant d'en faire 2 par mois, donc 2 mix de plus d'une heure chacun. Et ça, c'est vrai que c'est un projet aussi qui me tient à cœur, donc ce podcast Swiss Clubbing, puisque ça s'appelle comme ça, que j'essaie de mettre en avant soit avec mon site, soit à travers iTunes, hein, où les gens peuvent aussi directement se mettre sur le podcast. Et après, voilà, pour ceux qui ont iTunes, ça se met à jour tout seul, ça télécharge les nouveaux mix automatiquement. Oui, c'est vraiment, aujourd'hui on a des outils comme Internet et ça serait dommage de pas s'en servir, parce que ça permet vraiment d'exporter sa musique, de la faire connaître à d'autres personnes et surtout pour un coût vraiment pratiquement inexistant, quoi, parce qu'un site web ça coûte 100 francs par année pour un .com et puis après voilà, l'inscription sur Facebook, Twitter, c'est gratuit. Oui, je pense que c'est une bonne chose de les utiliser pour partager sa musique avec d'autres personnes. Ça permet aussi parfois de découvrir d'autres artistes qui font aussi des podcasts comme ça, et d'échanger des idées. C'est vraiment très intéressant.
Il aime la musique et il en parle bien. On le retrouve aussi sur Radio People dans l'émission In The Mix entre 22h et 3h, puisque tu as la chance de me faire parvenir aussi tes fameux sets de mix Swiss Clubbing. Faites www.yannanderson.com pour avoir toute son actualité et toutes les choses qui le concernent. Allez le rejoindre sur Facebook et sur Twitter. Je te souhaite de belles soirées en perspective, mais une bonne ambiance dans la salle, et puis garde ton bel état d'esprit par rapport à ça, parce que je trouve ça top, et puis tu le fais très bien, et puis tes mix, parce que je les connais, c'est vraiment de la bonne musique, du bon son et du bon mix. Bonne continuation à toi Yann, et plein succès.
Merci beaucoup, à bientôt, ciao.
Radio People, écoute la différence. Radio People, your web radio.